en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Après avoir été élue le 6 décembre 2010, puis introduite, tel est le mot traditionnel, à l'Académie des sciences morales et politiques le 7 février 2011, le juriste et magistrat Bruno Cotte a lu la notice consacrée à son prédécesseur Roland Drago, qui siégeait dans la section législation, droit public et jurisprudence depuis 1990 et qui est décédé à Paris le 7 mai 2009. Entré grâce à Canal Academy dans la grande salle des séances, vous entendrez tout d'abord le président de l'Académie des sciences morales et politiques pour l'année 2011, Jean Béchler, rappeler l'exceptionnelle carrière du nouvel académicien Bruno Cotte, puis vous entendrez Bruno Cotte lui-même rendre hommage à Roland Drago. Cette séance s'est tenue le 3 octobre 2011.
Mon cher confrère, vous avez été élu le 6 décembre 2010 et introduit dans notre compagnie le lundi 7 février 2011. Aujourd'hui, nous vous appelons à lire la notice de votre prédécesseur. Vous aurez noté, je suppose du moins, que notre Académie fait dans la sobriété et le dépouillement, en abandonnant les honneurs et le clinquant à des rites extérieurs et subalternes, comme la remise d'épée. Nos mœurs, en effet, sont marquées par le souci de l'institution, par la participation à ses travaux et par le dévouement à ses opérations. Celui dont vous occupez le fauteuil a été exemplaire sous tous ses chefs. Roland Drago, en effet, a été pendant près de 20 ans parmi les plus assidus. Ses interventions et ses communications se signalaient par la science et l'appropriation. Il a lancé, conduit et fait aboutir plusieurs travaux collectifs de notre Académie. Il en a assuré la présidence avec autorité et compétence, et s'est dévoué à des tâches administratives intéressant l'Institut. J'ai moi-même été introduit sous sa présidence en l'an 2000. Aussi bien, ai-je eu l'occasion et le loisir, pendant près de 10 ans, de découvrir et d'apprécier une intelligence supérieure, une science inexpugnable, une culture profonde et un cœur généreux. Vous assumez, mon cher confrère, une succession lourde et prenante. Mais je ne doute pas que vous y réussissiez, au vu de vos talents et de votre carrière. En effet, licencié en droit et sorti second du concours de l'École nationale de la magistrature, vous avez commencé une glorieuse carrière en 1970 comme magistrat à l'administration centrale du ministère de la Justice. Chef de cabinet du directeur des affaires criminelles et des grâces de 1971 à 1973, substitut au parquet de Lyon 1973 à 1975, chef du bureau de l'action publique, chargé des affaires économiques et financières à la direction des affaires criminelles et des grâces de 1975 à 1980, chargé de mission auprès du premier président de la Cour de cassation, 1980-1981, vous devenez, cette année 1981, secrétaire général du procureur général de la Cour d'appel de Paris. Magistrat détaché au ministère de la Justice, sous-directeur de la justice criminelle en 1983, vous êtes nommé en 1984 directeur des affaires criminelles et des grâces, fonction que vous occupez pendant 6 ans sous les gardes des sceaux successifs Robert Badinter, Michel Crépeau, Albin Chalandon et Pierre Arpaillange. En avril 1990, vous devenez procureur général à la Cour d'appel de Versailles. Vous avez eu le temps de consacrer de 1988 à 1990 vos lumières à la commission Justice pénale et droits de l'homme, présidée par notre confrère, Madame Mireille Delma Marty. Le 29 août 1990, le garde des Sceaux, Pierre Arpaillange, vous nomme procureur de la République du tribunal de grande instance de Paris, poste que vous occupez jusqu'au 28 août 1995. En octobre de cette même année, vous devenez avocat général à la Cour de cassation, puis le 13 septembre 2000, vous êtes installé dans les fonctions de président de la chambre criminelle de la Cour de cassation. À la suite de la démission du premier président de cette Cour, devenu membre du Conseil constitutionnel le 5 mars 2007, vous assurez la première présidence de la Cour de cassation par intérim en tant que doyen des présidents de chambre jusqu'à l'installation du nouveau premier président le 30 mai 2007. Cette même année 2007, en juillet, la France présente votre candidature à l'élection comme juge à la Cour pénale internationale de La Haye. Et le 30 novembre de cette année, vous êtes élu par l'Assemblée des États, partie au statut de Rome, à l'issue d'un seul tour de scrutin et êtes affecté à la section de première instance. Enfin, depuis octobre 2008, vous présidez la chambre de première instance numéro 2. J'espère n'avoir rien oublié de cette brillante carrière. Mon cher confrère, vous avez la parole.
La richesse de cette académie tient bien sûr à l'extrême diversité des membres qui la composent. Vous représentez, nous le savons, les disciplines les plus variées. Chacun d'entre vous a le souci exigeant de continuer plus que jamais à transmettre l'expérience acquise au cours de vies professionnelles riches et denses. Et je vous l'avoue, j'ai été impressionné, en vous rejoignant, par l'intense activité que toutes et tous vous déployez, comme si l'élection renforçait encore la vitalité et la créativité de chacun. Il demeure que les existences quotidiennes des membres de cette compagnie ne se ressemblent pas. Certains d'entre vous sont ou ont été des hommes publics connus de tous, ayant exercé ou exerçant encore de hautes responsabilités politiques ou professionnelles. Ainsi avez-vous récemment entendu prononcer l'éloge de Jean Foyer et allez-vous prochainement entendre celui de Pierre Messmer. D'autres, parvenus au fait de leur domaine de compétence, ont eu la possibilité ou l'occasion, notamment grâce aux médias, de faire partager leur science et leur passion en les portant largement à la connaissance de tous. Il en est d'autres dont l'existence, pourtant singulièrement productive, est en apparence seulement plus effacée, plus modeste. Connus et reconnus dans leur milieu professionnel, en France, et souvent bien au-delà, car ils y occupent une place majeure, ils le sont parfois moins du grand public, car l'occasion ne leur a pas été donnée, ou alors plus rarement, d'être placés au premier rang et dans la durée, sous le feu des projecteurs. C'est précisément d'un de ceux-là dont je vous parlerai aujourd'hui, d'un homme simple, et modeste, d'un homme qui pourtant en famille, socialement, professionnellement, a su dans tout ce qu'il a entrepris tracer un large sillon, un sillon visible à l'œil de tous ceux qui l'ont côtoyé, un profond sillon, d'un homme qui, à sa façon, a su marquer sa place, accomplir sa destinée, d'un homme qui, utilisant des mots simples et parlants, a rayonné. Je veux vous entretenir de l'un de ces grands juristes qu'évoque avec tant d'humour, de malice même et surtout de lucidité, le professeur Philippe Mallory dans les Mélanges publiés en 1996 en hommage à son vieil ami Roland Drago. Oui, c'est Roland Drago, un honnête homme, votre ancien confrère, l'ami de nombre d'entre vous que je suis heureux d'évoquer à cet instant. C'est votre père, votre beau-père, votre grand-père, celui qui fut un chef de famille aimé et respecté, que je souhaite tenter aujourd'hui de faire revivre brièvement, moi qui ne l'ai pas connu et qui lui succède. Étonnante, vraiment étonnante alchimie que ressent, je crois, tout nouvel académicien, qui fait que quelqu'un que souvent l'on n'a pas eu l'occasion de fréquenter devient insensiblement très proche, et que s'instaure entre le récent élu et son prédécesseur disparu un courant d'affection presque palpable. Fils et neveu de magistrat, Roland Drago est né à Alger le 22 juin 1923. Les différentes affectations de son père, juge de paix à compétences étendues, le conduiront à découvrir Blida, où il fera ses études primaires, Constantine, où il suivra les classes du cycle secondaire, enfin Alger, où il découvrira le droit au contact de maîtres qui compteront pour lui. Mobilisé à l'âge de 20 ans, en janvier 1943, il rejoint le 65e régiment d'artillerie algérienne, avec lequel il gagnera successivement la Tunisie, l'Italie, enfin la France, où il débarque à Saint-Tropez le 20 août 1944. Commence alors pour lui la campagne de France, puis celle d'Allemagne, où il sera démobilisé en août 1945 dans le Württemberg. Ces deux années de guerre marqueront profondément Roland Drago, et il fera preuve tout au long de son existence d'un très grand intérêt pour les questions militaires. Sans doute cet attachement s'expliquait-il en partie par son goût prononcé pour l'histoire, mais il était d'évidence profondément enraciné, et il suffit de rappeler pour s'en convaincre qu'il a enseigné à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, qu'il fut auditeur de l'Institut des hautes études de défense nationale et, durant de longues années, membre du jury du concours d'accès aux fonctions de contrôleur général des armées, ce qui lui permettait de concilier le temps des épreuves, sa passion pour l'armée et pour le droit public. Revenu à la vie civile à la fin de la guerre, il dira souvent « Je suis né en 1945 ». Cette courte phrase que m'ont confiée ses fils dépeint parfaitement l'homme d'action qu'il sera. Inutile de se retourner sur le passé, sauf peut-être sur l'histoire, c'est devant soi que l'on porte son regard, et c'est ainsi que se comportera Roland Drago, et il avancera vite. Élève de René Capitan et de Marcel Valine, c'est sous la direction de ce dernier qu'il soutient brillamment sa thèse en 1948. Nous y reviendrons. Il est reçu au concours d'agrégation de droit public des facultés de droit en 1950. Et il rejoint alors Tunis, où il enseignera notamment aux côtés de Jacques Flour, Roger Jean Bumerlin, de Raymond Barre et de Philippe Mallory, avec lesquels il nouera des liens de solide et profonde amitié. Il se marie en 1951 et il aura trois fils, qu'avec leur famille nous saluons donc une nouvelle fois très chaleureusement et qu'à titre personnel je remercie pour l'accueil si simple et si immédiat qu'ils m'ont réservé afin de m'apprendre à découvrir puis à mieux connaître leur père. En 1954, il cingle plein nord et quittant Tunis, il gagne Lille, où il restera jusqu'en 1965. Il y côtoiera Jean Foyer, dont il demeurera proche, et il y dispensera un enseignement remarqué, préfigurant celui qu'il donnera à Paris, où il sera quelques années plus tard le premier titulaire d'une chaire de sciences administratives. Universitaire, Roland Drago le fut, certes. Il enseigna, bien sûr. Il exerça aussi des responsabilités administratives, en particulier au sein du comité consultatif des universités. Il conseillera même un ministre des universités. Mais Roland Drago ne fut pas seulement un enseignant exceptionnel. Ce serait réduire l'homme et son existence, car il eut en réalité plusieurs vies. Voici pourquoi, opérant un choix au sein de ce que fut son existence, aussi variée que dense, vous parlerai-je bien sûr du professeur d'université, l'enseignant, le maître et l'auteur, qui sut transmettre son savoir et de quelle manière, mais je vous entretiendrai aussi de Roland Drago, comparatiste passionné, du juge également, car il le fut, de l'académicien enfin assidu et engagé. Et l'homme que fut Roland Drago, nous accompagnera dans le rappel de ce que furent ces diverses vies, différentes mais tellement complémentaires. Et vous l'avez compris, au-delà de leur apparente diversité, je souhaite ardemment parvenir à vous en montrer la richesse et plus encore l'unité. Et c'est de l'homme, voulez-vous, des traits de caractère qui font que quelqu'un vous marque d'emblée, que je désire tout d'abord parler. Car en rappelant ce qu'il était, nous comprendrons, me semble-t-il, mieux la route qu'il a suivie et les raisons de sa réussite. Tous ceux qui ont approché Roland Drago et qui m'ont aidé à le découvrir ont souligné l'attention qu'il portait aux autres, sa disponibilité et son écoute, son affabilité, en un mot, mais quel mot, son humanité. La disponibilité va souvent de pair avec le sens de l'accueil. Or, tel était bien le cas de son domicile parisien et de sa résidence périgourdine. Madame Drago était bien sûr à ses côtés, offrant une maison ouverte et accueillante, participant à sa façon, et j'ai compris que c'était avec délicatesse, distinction et talent, aux multiples contacts que devait nouer et entretenir le grand comparatiste que fut Roland Drago. Et quelle chance pour leurs enfants d'avoir ainsi pu bénéficier de la présence passagère de juristes venus du monde entier et d'avoir également pu suivre leur père durant certaines de ces pérégrinations estivales de comparatistes au cours desquelles ils partaient à la rencontre des juristes de tous les horizons. Mais l'ouverture aux autres et le sens du dialogue ne sont pas synonymes de familiarité. Roland Drago était de ceux dont l'autorité, toute naturelle, crée d'emblée une courte mais nécessaire distance. La dureté passagère du regard, comme le note très bien le professeur Jacques Chevalier, pouvant être aussitôt compensée par la douceur du sourire. Ses interlocuteurs découvraient vite qu'il était très exigeant à l'égard de lui-même. Ce qui, nous le savons tous, incite l'interlocuteur, et plus encore l'élève, à faire de même et à se dépasser. À cet égard, travailler avec Roland Drago ou sous son autorité était valorisant. Car pour reprendre une expression dont vous me pardonnerez la familiarité, mais elle est tellement parlante, l'on se sentait alors tiré vers le haut. Et c'était d'autant plus valorisant qu'il était d'un tempérament gai et optimiste, prenant avec philosophie et un certain recul les difficultés rencontrées, et il en eut pourtant son lot. Comme il était aussi valorisant de se savoir écouter, patiemment écouter, quitte à voir le maître qui avait l'esprit clair et l'art de bien poser les questions, les reformuler, afin de mettre son interlocuteur, heureux de se savoir compris, sur la voie de la bonne réponse. D'évidence, Roland Drago n'avait pas fait sienne l'une des règles chères, dit-on à son collègue Edgar Faure, pour qui, quand un problème était difficile, il fallait surtout le compliquer. Roland Drago puisait en réalité la force qui l'animait dans des convictions solides et fortes, dans des valeurs auxquelles il croyait et qu'il défendait, tout en sachant faire preuve de la plus grande tolérance, dans une immense culture qu'il entretenait, développait, enfin dans un attachement profond, d'abord à sa famille, qui pour lui, fils unique, ayant perdu son père alors qu'il n'avait que 20 ans, était sa fierté, mais aussi à ses amis, qui savaient qu'il était un homme de fidélité. Maintenant que nous connaissons peut-être un peu mieux l'homme, arrêtons-nous, voulez-vous, sur ce que fut la vie publique de Roland Drago et sur la variété, comme sur la richesse de ses engagements. Et parlons de l'universitaire. Roland Drago fut d'abord un exceptionnel professeur d'université et un maître. Dans le discours prononcé le 14 novembre 1991, lorsque lui fut remise son épée d'académicien, notre confrère Pierre Delvolvé tenait le propos suivant, je le cite. En vous accueillant parmi ses membres, l'Académie des sciences morales et politiques n'a pas seulement consacré votre personne et parachevé votre carrière, elle a couronné votre œuvre. Cette œuvre, c'est celle d'un professeur d'université, d'un professeur, avec tout le prestige et toute l'autorité qui reste attachée à ce mot. Cette œuvre, ce sont vos cours, la face à la fois visible et inappréciable de l'activité professorale, inappréciable car seuls peuvent la juger les étudiants qui suivent ces cours. Or, les échos qui venaient d'eux ont toujours retenti de manière favorable. Fin de citation. Roland Drago fut effectivement un professeur d'université, parfaitement adapté à la mission d'enseignement et de transmission du savoir qu'il avait choisi, qu'il aimait et qu'il a su d'emblée moderniser et renouveler. Tout en veillant à ce que ses cours accordent toute leur place aux concepts et aux théories juridiques, sans lesquels il n'est pas de bon enseignement du droit, il a en effet souhaité donner à ses leçons de droit administratif une orientation résolument pratique, moderne, vivante. Pour lui, cette discipline n'était pas désincarnée. Les grandes questions qu'elle soulevait devaient au contraire être replacées dans un cadre historique, étudiées à la lumière des solutions mises en œuvre à l'étranger, car Roland Drago était un connaisseur avisé des structures administratives de nombre de pays, et sans cesse remises en perspective en fonction de l'évolution de la jurisprudence des juridictions administratives. Cette dernière exigence impliquait donc que soit noué, puis entretenu, un lien étroit avec ces juridictions. Et tout particulièrement, bien sûr, le Conseil d'État. Elle explique l'intérêt qu'a très vite porté Roland Drago au contentieux administratif. Elle permet de mieux comprendre le caractère particulièrement dynamique et vivant d'un enseignement qui, d'évidence, dépassait le cadre traditionnel. Si l'on ajoute que, sans négliger en rien ses tâches d'enseignement, Roland Drago a déployé tout au long de sa vie professionnelle une intense activité de consultation et d'arbitrage de haut niveau, son activité clinique, disait-il, on comprendra mieux encore à quel point ses cours pouvaient être riches d'une expérience pratique que renforçaient encore les connaissances de comparatistes que je viens d'évoquer et sur lesquelles je reviendrai dans un instant. Esprit, je l'ai déjà souligné, d'une extraordinaire clarté, très didactique, ayant le sens du dialogue, ayant aussi pleinement conscience que l'auditeur le plus attentif peut parfois ne pas tout comprendre tout de suite, ce qui implique un retour en arrière, puis un rappel synthétique, Roland Drago a toujours cherché à faire de sa discipline un droit en mouvement, ouvert sur l'extérieur et en prise directe avec la vie quotidienne et la réalité. On comprend dès lors que plus encore qu'un professeur, il fut véritablement un maître. Un maître qui, à Tunis, à Lille et à Paris, a suscité de nombreux disciples qu'il appelait avec une grande simplicité et tout simplement ses élèves. Je n'énumérerai pas les noms de toutes celles et de tous ceux qui lui ont demandé de les guider dans leurs recherches, qui ont souhaité l'avoir comme directeur de thèse, qui ont sollicité de lui une préface et qui l'a guidé vers l'agrégation et le chemin de l'enseignement, tant l'image qu'il donnait de l'enseignant était lumineuse, incitative et par la même source de vocation. Roland Drago avait un réel charisme, auquel s'ajoutait une séduction toute naturelle, à laquelle, m'a-t-on dit avec une affectueuse malice, ses élèves et particulièrement ses étudiantes se montraient sensibles. Voilà qui ajoute encore à son humanité. Vous êtes ici nombreux à venir de l'université, et je le rappelle en provenance d'horizons divers. et à être devenus, vous aussi, des maîtres dans les disciplines les plus variées. Vous savez donc, pour l'avoir pratiqué tout au long de vos existences professionnelles, et encore à présent pour nombre d'entre vous, ce qu'est cette relation singulière, cette sorte de filiation qui s'instaure petit à petit entre le maître et l'élève. La plus grande joie étant, je pense, de voir le second, riche de l'enseignement du premier, le dépasser un jour, en renouvelant la discipline étudiée en commun et en lui ouvrant de nouvelles perspectives. Le juge que je suis, pourtant adepte du travail collectif lorsqu'il était procureur, puis du travail collégial dans le cadre des délibérés des formations de jugement, n'a pas conscience d'avoir connu, ou en tout cas pas de la même manière, cette situation de partage qui doit être souvent intense et je le regrette. Pas plus d'ailleurs, il faut bien l'admettre, que je ne pense avoir été à l'origine de vocation. Roland Drago, lui, en a d'évidence suscité. Qu'il me soit seulement permis, sans être exhaustif, de citer, car je sais qu'ils ont compté pour lui et qu'il a compté pour eux, des universitaires tels Jean-Michel le Moine de Forges, Jeanne le Masurier, Jacques Chevalier, François-Julien Laferrière, ou d'anciens élèves de l'École nationale d'administration, devenus juges administratifs, tels, pour n'en citer qu'un, Bernard Stirn, aujourd'hui S.E. Hasard, président de la section du contentieux du Conseil d'État. Il suffit encore pour s'en convaincre d'ouvrir les mélanges qui lui furent consacrés en 1996 sur le thème de l'unité du droit et de lire la liste des 26 auteurs de contributions où se côtoient amis, collègues et bien sûr disciples. Quel beau titre, l'unité du droit, et surtout quel bel objectif dont lui, le spécialiste incontesté du droit administratif, se montrait si soucieux et dont il témoignait en étant totalement ouvert aux autres disciplines juridiques, à commencer pour lui, le publiciste, par le droit privé. Roland Drago, enseignant, ne s'est toutefois pas limité à l'université. Il a aussi dispensé son savoir dans de nombreuses autres enceintes, et non des moindres. Je ne retiendrai aujourd'hui que l'École nationale d'administration, l'Institut international d'administration publique, et je le rappelle, car il y tenait, l'École spéciale militaire de Saint-Cyr-Coëtquidan. Je m'abstiendrai en revanche de citer les innombrables colloques, conférences, tables rondes et rencontres auxquelles il a participé, tout simplement parce que l'on souhaitait que soit présent cet homme de savoir, de dialogue et de partage. Tout comme je ne m'arrêterai pas sur les nombreuses missions qui lui furent confiées par les autorités publiques, sa présidence du jury du concours d'agrégation de droit public, les commissions auxquelles il fut invité à participer par ces mêmes autorités, les expertises qu'elles lui confièrent, car dans son domaine, il était un savant. Il avait la distance et l'autorité qui permettent de s'imposer sans heurts et de fédérer les intelligences. Sa courtoisie, enfin, et son sens du dialogue faisaient de lui un merveilleux ambassadeur du droit français. Roland Drago fut ensuite et aussi un auteur dont les traités, les articles, les rapports ne se comptent pas, tant ils sont nombreux, dans les deux domaines de prédilection que furent pour lui la science administrative et le droit administratif, mais également bien au-delà, car c'était un homme curieux et apte à écrire d'une plume alerte et concise, aussi bien sur le chef des armées de la IIIe et de la Ve République que sur l'État face au terrorisme, la géographie et le droit, ou encore, beau sujet, le problème de l'existence d'un ministère de la justice en France. Et je ne cite que quelques-uns de ses nombreux articles. Arrêtons-nous sur la science administrative. C'est l'appellation même de la chaire qu'occupait Roland Drago durant sa carrière universitaire parisienne. Et rappelons à cette occasion qu'il fut à l'origine du Centre d'études et de recherche en sciences administratives, le CERSA, dont il assuma la direction durant près de 20 ans. Comme l'a encore bien noté Pierre Delvolvé, l'intérêt de Roland Drago s'est essentiellement porté sur les missions de l'administration et sur son organisation. Comment, en effet, enseigner le droit administratif et le mettre en œuvre si l'on ignore les modes de fonctionnement de l'administration. Vaste sujet que le premier, tant l'administration dont les missions traditionnelles sont déjà si lourdes, est souvent portée à vouloir s'immiscer dans les domaines les plus divers afin de les réglementer. Roland Drago a exercé là son esprit critique et son rôle de magistère, n'hésitant pas à rappeler que vouloir tout régir et trop régir conduit à une inévitable dispersion et à l'insuffisance de contrôle pourtant bien nécessaire. Tout comme il a tenu à souligner que la multiplication des missions de l'administration ne pouvait être sans incidence sur ses modes d'organisation, autre champ de nombre de ses recherches. L'organisation des ministères et des administrations centrales a retenu toute son attention. N'oublions pas qu'il a, sur ce plan, allié théorie et pratique et conseillé de 1976 à 1981 un ministre des universités, une ministre des universités, qu'il retrouvera ensuite ici même au sein de cette académie. Je vous avoue que j'aurais beaucoup aimé pouvoir m'entretenir avec lui de l'organisation des administrations centrales. Moi qui, dans ma carrière de magistrat, eus l'honneur de travailler à trois périodes différentes, mais durant plus de 16 ans, dans ce ministère si particulier qu'est la chancellerie, du poste de rédacteur à celui de directeur des affaires criminelles et des grâces, en passant, Courteline est toujours là, par ceux de chef de bureau et de sous-directeur. L'organisation des collectivités a également été au cœur des préoccupations et des travaux de Roland Drago. Et les 30 dernières années lui ont sur ce plan ouvert des horizons, ou plus exactement des champs d'analyse infinis. Le développement puis la prolifération des autorités administratives indépendantes ont préoccupé Roland Drago et l'ont conduit à publier sur ce thème des études dont profitera votre assemblée. L'indépendance de ces autorités administratives l'a surpris et l'important pouvoir de sanction qui leur est reconnu, sous le contrôle notamment de l'autorité judiciaire et parfois la Cour d'appel de Paris, a heurté ce puriste du droit administratif qui a pu voir là une certaine confusion des genres. À côté de la science administrative, le droit administratif et plus encore le contentieux administratif ont constitué le second volet de son activité d'enseignement et de publication. Et quel volet ? Pour quelqu'un qui, comme moi, n'a fréquenté que le droit judiciaire privé, avec une forte dominante de droit pénal et de procédure pénale, et qui s'efforce de mettre en œuvre depuis 3 ans et demi les principes encore timides du droit international pénal. S'aventurer sur le terrain du contentieux administratif, en présence du président Marsolon, de plusieurs des académiciens qui sont ici aujourd'hui, comme d'anciens élèves de mon prédécesseur, relève sans nul doute de la totale inconscience. Et pourtant, il ne saurait être question de faire l'impasse, car c'est là que Roland Drago a tracé l'un de ses sillons les plus profonds. Sa thèse, tout d'abord, soutenue en 1950, sur les crises de la notion d'établissement public, constitue, m'a-t-on dit, toujours, 60 ans après, un ouvrage de référence. Ses interrogations sur la nature des contrats administratifs ne peuvent être ignorées de celles et de ceux qui en font leur sujet d'étude. Enfin, grâce à son traité de contentieux administratif, écrit avec Jean-Marie Aubi, publié en 1962 et plusieurs fois réédité, Roland Drago a mis à la portée de tous les universitaires, des chercheurs, des étudiants, mais aussi de tous les acteurs des juridictions administratives, qu'ils soient conseillers d'État, membres de cours administratives d'appel ou de tribunaux administratifs, avocats au conseil, avocats des cours et tribunaux, une source de renseignements incomparables sur le fonctionnement des juridictions administratives et sur leur jurisprudence. Est-il besoin de vous dire que dans l'île de la Cité, et plus largement dans toute la France judiciaire, chacun aimerait bénéficier d'un traité de contentieux civil, commercial, social, pénal, que sais-je encore, tant le droit s'est diversifié, d'une telle qualité et faisant à ce point autorité. Roland Drago n'a pas oublié les juristes de droit privé. Son éclectisme l'a en effet conduit à copublier avec Albert Chavannes, qui enseigna le droit pénal à l'Université de Lyon, et Henri Blin, qui présida la première chambre civile de la Cour de cassation, le fameux Blin-Chavannes-Drago, traité de droit de la presse dont tous les juges, appelés au civil ou au pénal, à traiter d'injures, de diffamation, de discrimination, de provocation au meurtre, à la haine raciale, que sais-je encore, ont fait et continuent à faire l'un de leurs ouvrages de référence. Et je vois pour ma part dans cet ouvrage, auquel j'ai si souvent fait appel, l'un des traits d'union, l'une des passerelles, qui me relie à mon prédécesseur. Nous nous sommes donc l'un et l'autre dans des lieux différents, à des époques différentes et de manières différentes, passionnés pour ce droit si complexe, et cette constatation contribue encore à accentuer la proximité que je me découvre avec Roland Drago. Devenu un spécialiste incontesté de la science administrative et du contentieux administratif, Roland Drago aurait pu se contenter de régner sur son domaine de prédilection. Tel ne fut pourtant pas le cas, et très vite, il se tourna également vers le droit comparé, auquel il consacra plus de 40 années de sa vie professionnelle. La démarche n'est pas si aisée, et elle suppose de la part de celui qui s'y engage de faire preuve d'attention aux autres, d'écoute, de curiosité, d'une réelle aptitude à se remettre en cause, bref, de beaucoup de modestie. Car il ne saurait être question d'imposer avec triomphalisme son propre système juridique et ses méthodes de travail. Il convient au contraire de savoir les confronter aux systèmes juridiques étrangers et d'être prêt à dialoguer et à partager pour rechercher ce qu'il y a de meilleur chez les uns et chez les autres. Appelé à faire, depuis quelques années, quotidiennement et sur le terrain du droit comparé, un droit comparé que je qualifierais de pratique, je suis en mesure d'attester que l'arrogance cocardière n'est pas de mise et qu'il faut bien souvent savoir et même se forcer à oublier d'où l'on vient, ce que l'on a appris, ce que l'on croit savoir et ce que l'on a toujours pratiqué pour adopter des solutions qui sont le fruit d'un mélange de cultures juridiques différentes de la nôtre. Enthousiaste, passionné et modeste, Roland Drago ne pouvait être qu'un grand comparatiste. Et il le fut. Tout d'abord au sein de la Société de législation comparée, où il exerça les fonctions de secrétaire général de 1964 à 1977, sous la présidence de Marc Ancel, dernier magistrat de l'ordre judiciaire ayant siégé au sein de cette académie. Il accéda ensuite à la présidence de la Société en 1979 et assuma cette charge jusqu'en 1983. Comparatiste de renom, il le fut aussi au sein de l'Académie internationale de droit comparé, où il a occupé les fonctions de secrétaire général de 1973 à 2006. Quelques mots sur la Société de législation comparée. Lorsqu'il accéda au poste de secrétaire général de cette société en 1964, elle organisait régulièrement 4 journées juridiques bilatérales avec l'Amérique latine, la Yougoslavie et l'Italie, la Pologne. Dès 1966, sous son impulsion, viennent s'ajouter 3 nouvelles journées, Grande-Bretagne, Hongrie, Allemagne et Suisse. 2 autres en 1967, avec l'Union soviétique et la Roumanie. 2 autres encore en 1975, avec la Bulgarie et l'Autriche. L'année 1969 sera celle du centenaire de la fondation de la société. La commémoration de cet anniversaire s'ouvrira le 17 février par une séance tenue sous la présidence de René Capitan, alors garde des Sceaux, ministre de la Justice, et se clôturera en octobre avec l'organisation de journées internationales de droit comparé qui réuniront des comparatistes de nombreux pays et donneront lieu à la publication de 2 volumes, l'un sur un siècle de droit comparé en France, l'autre intitulé « Évolution internationale et problèmes actuels du droit comparé ». En qualité de secrétaire général, cette fois-ci de l'Académie internationale de droit comparé, Roland Drago fut l'organisateur des congrès de Téhéran en 1974, Budapest 1978, Caracas 1982, Sydney 1986, Montréal 1990, Athènes 1994, Bristol 1998, Brisbane 2002, Utrecht 2006. Autant d'occasions de rencontres et d'échanges, bien sûr, mais aussi et surtout autant de lieux de travail car chaque congrès examinera durant une semaine une trentaine de thèmes couvrant tous les domaines du droit, présentés par des rapporteurs nationaux travaillant sous l'autorité d'un rapporteur général. À compter du congrès de Montréal en 1990, ces rencontres réuniront près de 800 participants. Un annuaire des membres de l'Académie sera édité chaque année. Les rapports généraux des congrès seront publiés, tout comme sera encouragée l'édition de volumes thématiques regroupant rapports généraux et rapports nationaux. Ce bref rappel témoigne du rayonnement que Roland Drago s'est efforcé de donner à cette discipline. Il témoigne aussi du temps que, sans compter, il lui a consacré, organisé et préparé journées, colloques et congrès, choisir les thèmes et les rapporteurs, veiller à ce que ces rencontres se déroulent en français et tout mettre en œuvre pour qu'elles soient d'incontestables succès, suppose en effet une disponibilité constante et l'existence de liens étroits avec les juristes de tous les continents. Ces liens, Roland Drago a su les créer et surtout les entretenir au prix d'une lourde correspondance, mais aussi en se rendant à l'étranger et, comme je l'ai évoqué il y a un instant, en recevant ses multiples interlocuteurs à Paris ou en Périgord et souvent dans la chaleur de son domicile. Dans le très bel hommage que dans la revue internationale de droit comparé, il lui a rendu après son décès, le professeur Jacques Robert, président du Centre français de droit comparé, a, à mon sens, superbement décrit la somme de qualités qu'a déployé le grand comparatiste que fut Roland Drago. Ainsi souligne-t-il, je le cite, « une disponibilité que n'ont d'ailleurs que les gens les mieux organisés et les plus occupés. Le goût des contacts humains et l'amour des rencontres imprévues. Une dilection pour les voyages même les plus lointains. Et aussi sa culture immense, nous y revenons, qui en faisait pour nos collègues étrangers un interlocuteur privilégié, son énergie farouche, qu'alimentait sans nul doute un amour intense de la vie. Toutes elles et tous ceux qui l'ont accompagné et assisté dans cette tâche sont unanimes pour dire qu'il s'y est donné avec un dévouement, une compétence, un optimisme, un sens du dialogue, un souci de mettre la France, son pays, au cœur d'échanges qu'il voulait riches et féconds, qui les impressionnaient et faisaient leur admiration. Roland Drago tint d'ailleurs à ce que la chouette, symbole de la sagesse et emblème de la société de législation comparée, figure sur son épée d'académicien. Enseignant, comparatiste, expert, conseiller de ministre, Roland Drago a su passer de la théorie juridique à la pratique judiciaire en étant membre, parallèlement à ses tâches d'enseignement et pendant plus de 30 ans, du tribunal suprême de Monaco. Alors, voulez-vous, quittons un instant le Quai Conti et partons en direction de la principauté. Le tribunal suprême, au sein duquel il déploya là encore une intense activité, a été créé le 5 janvier 1911 par le prince souverain Albert Ier. La principauté était alors une monarchie absolue et le souverain qui avait accédé au trône en 1889 concrétisa cette année-là la promesse qu'il avait faite de doter ses sujets d'une constitution. L'article 14 du titre 2 de la Constitution du 5 janvier 1911 institua donc un tribunal suprême pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le présent titre. Roland Drago y fut nommé juge en 1975. Il fut ensuite le vice-président de cette juridiction avant de la présider à compter de 1998. Il succédait alors aux éminents juristes qui étaient Louis Trottaba et René-Jean Dupuis, et il assuma cette responsabilité jusqu'en 2007, date à laquelle il devint président honoraire. Le publiciste qu'il était, pouvait-il rêver meilleur champ d'observation et meilleur laboratoire que celui qui lui était ainsi offert ? Sans doute l'activité du tribunal suprême était-elle alors sur le plan quantitatif assez modeste, mais les questions juridiques à traiter étaient de nature à passionner le spécialiste du contentieux administratif, soucieux, comme pour tout ce qu'il entreprenait, de participer à la prise de décisions créatrices de jurisprudence claire, donc comprise, stable, donc facteur de sécurité juridique. Car le tribunal suprême est à la fois juge constitutionnel, juge administratif et juge des conflits. Il réunit donc en son sein des fonctions dévolues en France au Conseil constitutionnel, au Conseil d'État et au Tribunal des conflits. Juge constitutionnel, le Tribunal suprême, depuis l'entrée en vigueur de la Constitution de 1962, l'est à part entière et Roland Drago se plaisait à souligner qu'il était la plus ancienne juridiction constitutionnelle du monde. Retenons simplement, car je ne vais pas m'improviser brutalement, professeur de droit constitutionnel et administratif monégasque, que ce tribunal connaît en effet, et de là vient cette première place, des recours directs formés contre les lois qui lui sont déférées par toute personne ayant intérêt à agir, et ce dans le délai de 2 mois à compter de leur publication. Il connaît aussi des exceptions d'inconstitutionnalité dont peuvent le saisir les tribunaux judiciaires ou dont il se saisit lui-même. Il peut allouer des indemnités pour réparer les préjudices causés par une atteinte aux droits et libertés. Le tribunal suprême est aussi juge administratif. Limitons-nous à ce titre à 3 des compétences qui lui sont dévolues, car elles sont importantes pour bien comprendre l'intérêt qui portait Roland Drago. Ce tribunal connaît les recours en annulation de tous les actes administratifs, et en particulier les recours formés contre les ordonnances souveraines prises pour l'exécution des lois, à l'exception toutefois de celles qui sont prises pour l'application des traités ou accords internationaux, qui appartiennent à la catégorie des actes de gouvernement. En cas d'annulation de l'acte attaqué, le tribunal suprême se prononce sur l'éventuel octroi d'indemnité. Il connaît aussi des recours en cassation, formés contre les décisions des juridictions administratives statuant en dernier ressort. Enfin, le tribunal suprême est juge des conflits de compétences pouvant intervenir entre les juridictions administratives et judiciaires. Ce rappel était peut-être un peu fastidieux, mais il vous permet de mieux comprendre le plaisir qu'a pu éprouver Roland Drago, spécialiste incontesté du contentieux administratif, à être ainsi juge de l'excès de pouvoir, mais aussi juge de cassation, bref, en collégialité, le régulateur de la vie administrative de la principauté. Tous ceux qui l'ont côtoyé dans ses fonctions attestent de l'extrême conscience avec laquelle il s'en est acquitté et des initiatives qu'il a prises pour faire connaître le tribunal suprême, l'insérer dans le groupe des cours constitutionnels et l'associer à leurs rencontres et à leurs travaux. Outre son activité purement juridictionnel, qui l'a conduit à participer à la rédaction de nombre des décisions rendues par ce tribunal suprême, Roland Drago, là encore soucieux de le faire mieux connaître, a souhaité écrire sur cette juridiction son histoire, ses compétences, ses techniques de contrôle, et il l'a célébré avec talent et passion dans un très beau discours intitulé « Éloge du droit public » lors de la rentrée solennelle des tribunaux monégasques le 1er octobre 1999. Retenons, voulez-vous, que Roland Drago a d'évidence éprouvé beaucoup de joie à Monaco. Comme me l'écrivait récemment un magistrat français, ancien directeur des services judiciaires de la Principauté, et je le cite, « Il nous est arrivé, après avoir dîné, de marcher en faisant le tour de la promenade située sous le casino de Monte-Carlo. En admirant le port Hercule et le rocher illuminé, cela lui rappelait Alger, sa ville natale. Il était toujours très heureux de se ressourcer au bord de la Méditerranée. » Fin de citation. Heureux, enfin, Roland Drago le sera au milieu de vous. Son élection à l'Académie des sciences morales et politiques, où il succédera en 1990 à un autre éminent universitaire, le professeur Henri Batifol, fut en effet pour lui source de fierté et d'une immense joie. En recevant son épée des mains du président Georges Durie, le 14 novembre 1991, il confessera même, je le cite, « C'est un rêve que l'on fait parfois quand on est jeune. On se dit « j'arriverai à l'Institut ». Eh bien voilà, et je vous assure que j'en ai rêvé. » Fin de citation. Après le rêve est aussitôt venue l'action, car fidèle à son tempérament, Roland Drago fut un académicien engagé et particulièrement assidu au sein de votre assemblée d'abord, mais encore dans différentes instances de l'Institut. Ici même, il intervenait souvent. Et m'a-t-on dit, il était très écouté, car, indépendamment de sa grande culture juridique, littéraire et historique, c'était, il faut le redire, un homme de conviction. Il tenait à défendre ce à quoi il croyait, et il le faisait avec courtoisie, mais aussi, si nécessaire, avec force. Il présida votre académie en 2000 et il vous invita à réfléchir au cours de cette année charnière sur le rôle et la place de l'État au début du XXIe siècle. Le choix d'un tel thème de travail répondait à son souci de voir l'État occuper sa place, toute sa place. Alors que, pour reprendre ses propres termes, la République se voit grignotée vers le haut par l'Union européenne et vers le bas par les collectivités locales et semble se rétrécir de toutes parts dans ses attributions institutionnelles. Préoccupé par ce qu'il appelait alors la prise de pouvoir, par les juges, par la rue ou par les moyens de communication, par l'existence de zones de non-droit et plus généralement par le fait que les citoyens ne croient plus en l'État, il a, avec vous, favorisé l'expression d'un large et riche débat sur la théorie de l'État, ses institutions fondamentales, la décentralisation, l'administration, la politique économique et sociale, la défense et la vie internationale, l'État et la justice, enfin l'État, la culture et l'opinion. À lire sa postface dans l'ouvrage qui rassemble toutes ses contributions, il ne semble pas qu'il ait été pleinement rassuré. Au moins a-t-il contribué à poser un diagnostic, à nourrir la réflexion, à dégager des pistes pour restaurer le rôle de cet État qui fut au cœur de sa vie professionnelle. Dépassant l'Académie des sciences morales et politiques pour atteindre l'Institut dans son ensemble, il fut, m'a-t-on dit, un membre assidu de ses assemblées générales et particulièrement de celles au cours desquelles il s'est agi de refondre les règlements administratifs et financiers. À la demande de Pierre Messmer, alors chancelier, il a relu ses textes avec la plus grande attention, soucieux d'éviter à l'Institut tout contrôle de l'État inutile, voire inopportun, et d'éviter encore tout ce qui pourrait s'apparenter à une mise sous tutelle des académies par l'Institut. Élu par vous, membre de la Commission administrative centrale, il a assisté à toutes les réunions, étudiant les dossiers avec une rigueur toute universitaire, spécialement ceux qui avaient trait à la délégation de services publics de certains musées. Comme pour tout ce qu'il entreprenait, Roland Drago, vous l'avez compris, a souhaité ici encore s'engager totalement et être pleinement académicien. Sans doute n'ai-je pas dit tout ce qu'était Roland Drago, et ai-je à dessein passé sous silence ce qu'était sa vie familiale, tout comme les relations qu'il entretenait avec ses amis proches. Cet aspect de son existence, partagé avec une épouse, Marguerite, disparue avant qu'il ne rejoigne votre compagnie, et dont j'ai mesuré, sans qu'on ait eu besoin de me le dire, la place qu'elle occupait auprès de lui, relève de la mémoire et de l'histoire personnelle de ses fils, de ses belles-filles et de ses petits-enfants. J'ai également pleine conscience que d'autres parmi vous, beaucoup plus compétents que moi, auraient pu analyser mieux que je ne l'ai fait tout ce qu'il a écrit au cours d'une carrière universitaire étincelante. En réalité, j'ai tenté de tisser les fils de quelques-unes des vies de Roland Drago, et me semble-t-il, l'écheveau est à présent largement tressé. Il nous renvoie, comme le ferait un miroir, l'image d'un homme à multiples facettes, celle d'un homme de réflexion et de savoir, mais aussi d'un homme d'action, entreprenant et créatif, d'un homme attentif, généreux, disponible et ouvert aux autres, mais également, il faut une nouvelle fois le répéter, l'image d'un homme de conviction, ayant eu à cœur de les afficher, de les exprimer et plus encore de les défendre. Et n'est-ce pas ce que l'on attend d'abord et avant tout d'un universitaire dont la vocation est de transmettre ? La jeunesse, et singulièrement la jeunesse étudiante, n'a que faire des tièdes. Elle exige de ses maîtres qu'ils lui proposent un exemple et que leur comportement soit conforme aux idées qu'ils professent et aux valeurs qu'ils enseignent. Elle leur demande de leur donner l'envie de se projeter dans l'avenir et de s'engager. C'est précisément, je le crois, ce qu'a fait Roland Drago. Il fut, j'y reviens, l'un de ces grands juristes dont Philippe Mallory dit, je le cite, qu'ils sont des gens de foi, croyant en des valeurs, raison d'être du droit et de leur vie. Le grand juriste est celui qui a soif de la justice, l'horreur des injustices et qu'anime le ferment de la foi. » Fin de citation. Jean-Paul Sartre, dit-on, décrivait Albert Camus comme l'admirable conjonction d'un homme, d'une action et d'une œuvre. Cette belle phrase, je veux l'appliquer à Roland Drago. Lui aussi, comme Camus, enfant de cette Algérie, à laquelle tant de liens nous unissent et qui a d'évidence beaucoup compté dans sa vie. Elle convient en effet à cet homme de bien, qui n'a cessé d'entreprendre et d'agir, laissant à tous ceux qui l'ont connu, apprécié, admiré et aimé, le témoignage d'une grande œuvre. L'œuvre d'un juriste, dominant les disciplines du droit, dont il avait fait sa spécialité, mais en même temps en quête permanente et soucieuse de l'unité du droit. L'œuvre d'un grand juriste. Mes chers confrères, Roland Drago, académicien, était l'un des vôtres. Il était votre ami, plus encore que son successeur, je crois. Je pense même être certain d'être à mon tour à cet instant devenu son ami, et vous l'avez deviné, j'en suis fier et profondément heureux.
Vous pouvez lire l'intégralité de ses discours sur le site de l'Académie des sciences morales et politiques, www.asmp.fr. Vous trouverez sur Canal Académie plusieurs émissions avec Roland Drago, notamment consacrées aux hautes autorités administratives, au tribunal suprême de Monaco ou à la confection de la loi. Enfin, permettez-moi de rappeler que Roland Drago a occupé les fonctions de trésorier au conseil d'administration de Canal Académie.